Nous souhaitons une excellente journée à tous nos auditeurs du grand Montréal qui demeure une zone rouge.
Oui. Sans surprise.
Non, il n'y a pas de surprise. On le savait, là.
On l'avait pas mal prévu. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il va falloir se serrer les coudes.
Tu sais que c'est le changement d'heure la semaine prochaine.
Hein? Dureté du mental, Paul. Oh, que ça va être difficile. Hein? Un couvre-feu à 8 heures quand il fait encore clair, là.
Ouh! Puis ça va. Ça va se réchauffer aussi dans les prochaines semaines.
C'est sûr.
Mais disons que jusqu'à Pâques, on va encore vivre cette période de confinement.
Heureusement, les vaccins s'en viennent. Et Paul, je te le dis, les probabilités d'une élection printanière viennent de monter en flèche.
Au fédéral, faut le dire.
Au fédéral. Parce que ça fait un bout qu'on sait que les chances qu'on aille en élection sont directement liées aux livraisons de vaccins. À la capacité de Trudeau d'assurer la livraison des vaccins. Puis moi, honnêtement, je voyais pas comment Justin Trudeau pouvait nous plonger dans une élection printanière tant et aussi longtemps que son échéancier était la fin septembre. Tout le monde vacciné pour la fin septembre, c'est ce qu'il dit. Sauf qu'hier, il a dit, attention, nous sommes très optimistes que nous parviendrons à accélérer le calendrier. Paul.
Ce qu'il veut dire.
Un politicien qui s'étire le cou comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il va être capable de livrer un échéancier plus rapproché que la fin septembre. Alors là, la question est de savoir...
Mais juste à dire en parallèle que Biden dit qu'il va vacciner tous les Américains d'ici la fin mai.
Exact. Il devance de 2 mois, lui. Ça devait être fin juillet. Ça va être fin mai. Alors si nous autres, on ne fera pas une règle de 3, là, mais mettons si au lieu de la fin septembre, c'était la fin juillet. Je te le dis, là, il y a un scénario qui dit fin juillet. Il y a un autre scénario qui est discuté, qui se promène, là, fin juin. Fin juin, Paul. On pourrait peut-être être... Oui, parce que regarde bien, là, on en a deux. AstraZeneca, le troisième. Johnson & Johnson va être approuvé, là, incessamment. Un vaccin à une dose. Ça, c'est sans compter le vaccin de Novavax, qui va être aussi, qui pourrait être fort probablement approuvé par Santé Canada, qui pourrait même être fabriqué à Montréal. Tout ça pour dire, Paul, que des vaccins, là, à partir du mois d'avril, là, ça va rentrer. On va en avoir des vaccins. Fait que là, la question est de savoir, qu'est-ce que Trudeau fait avec ça? Parce que là, Trudeau va être capable de dire, si tout va pour le mieux, Paul, il peut arriver un accident, il peut arriver des délais, tu comprends? Mais si les choses se déroulent comme prévu, Trudeau pourrait être en mesure de dire au mois d'avril, regardez, on a ce qu'il faut pour vacciner tout le monde et là, on verra l'échéancier qu'il donnera. Mais ça pourrait être juillet comme ça pourrait être juin. Fait que mets-toi à sa place, Paul. Mets-toi à sa place. Il est capable de dire, j'ai fait le travail. J'ai respecté mon engagement. Je me suis assuré que les provinces, parce que là, à partir de ce moment-là, ça devient la responsabilité des provinces. Je me suis assuré que vous ayez les vaccins nécessaires pour vacciner tout le monde fin juillet, peut-être fin juin. Tu fais quoi si t'étais à la place de Trudeau, toi? Tu comprends? Ça devient tentant, là. Ça devient très, très, très tentant, là, parce que là, qu'est-ce que tu veux? Moi, je demeure convaincu.
Et là, ajoute que les sondages actuellement sont favorables et que deuxièmement, M. O'Toole, qui était parti sur une certaine lancée quand il est devenu chef, ouais, là, ça va moins bien.
Ça va pas bien. Ça va pas bien.
Je regarde les caricatures au Canada anglais qu'on fait de lui puis des commentaires, là. Il est décevant.
Il n'a pas été capable de se définir, Paul.
Non.
Il n'a pas été capable de se définir. Alors là, la première fenêtre qui s'offre pour Justin Trudeau, c'est le budget. Bon. Parce que, évidemment, si le budget est battu, on s'en va en élection, c'est un vote de confiance. Sauf que Jack Meeting a dit, nous n'allons pas déclencher une élection, nous voterons pour maintenir le gouvernement en place. Pour maintenir le gouvernement en place, en parlant du budget. Donc, Jack Meeting a déjà dit, moi là, j'ai même pas besoin de voir ce qu'il y a dedans, je vais voter pour. Fait que, tout un rapport de force. Fait que là, si on s'en va pas en élection sur le budget parce que Jack Meade va voter pour n'importe quoi, la seule autre option qu'on a pour que Trudeau aille en élection, c'est qu'il se déclenche lui-même. Et je vais te dire honnêtement, Paul, le dysfonctionnement du Parlement fédéral actuellement est en train de lui donner une justification pour aller en élection. Paul, le Parlement ne fonctionne à peu près plus. On l'a vu avec le projet de loi sur l'aide médicale à mourir.
Mm-hmm.
Le projet de loi sur la radiodiffusion là, pour forcer Netflix et compagnie à produire du contenu canadien, ça avance pas. Le projet de loi C-14 là, qui vise à donner de l'argent pour les CHSLD, pour les familles, pour la recherche sur le vaccin, ça avance pas. Alors Trudeau, Paul, à cause de ce dysfonctionnement, pourrait dire aux Canadiens, regardez, moi là, j'ai livré sur les vaccins, prochaine mission, relancer l'économie. Mais je peux pas relancer l'économie avec un Parlement qui marche pas. Je peux pas relancer l'économie avec un Parlement où je suis constamment bloqué par les oppositions. Donnez-moi le mandat de gérer la relance. Et sais-tu quoi, Paul? Ça me fait drôlement penser à l'élection de 2008 au Québec, quand Jean Charest était minoritaire et il avait demandé le mandat pour diriger le Québec dans cette période de tempête économique. Parce que 2008, c'était
la crise
financière,
technos,
la crise des subprimes.
Oui, c'est ça.
Hein? Alors Trudeau pourrait, un peu sur ce même modèle, je suis minoritaire, j'ai besoin d'avoir les deux mains sur le volant, donnez-moi un mandat majoritaire pour relancer l'économie post-pandémie. Et sais-tu quoi, Paul? Ça pourrait marcher. Les Canadiens pourraient dire, regarde, ce gars-là a livré ses vaccins, on va lui donner les moyens maintenant de gérer l'économie, on fait pas confiance aux autres. Tu parlais des chiffres, Paul, t'as raison de dire qu'ils sont pas bons. Le léger de cette semaine, il met pas Trudeau en territoire majoritaire encore.
Non.
C'est 35 pour Trudeau, 28 pour les conservateurs, puis 23 pour Jack Meeting, qui est pas mal fort, Jack Meeting. Au Québec, c'est 34 pour Trudeau, 29 pour le Bloc, ce qui veut dire que le Bloc est premier chez les francophones, 16 pour les conservateurs et 16 pour Jack Mead au Québec. Il est étonnamment fort, Jack Mead.
En particulier, est-ce que c'est le retour à la tradition du NPD, fort avant les élections? C'est-à-dire que souvent dans les sondages, moi je me souviens, c'est à part la vague orange là, qui représentait un phénomène, là, mais le NPD, comme
ça,
on dit...
Ça se dégonfle.
Ça se dégonfle quand les bureaux du scrutin ouvrent.
C'est ça. Et là, Trudeau, pour qu'il soit en territoire majoritaire, il faut qu'il aille chercher une coupe de points. Alors, regarde bien le budget, mon gars, ça va être un budget NPD, le budget. Ils vont dépenser, ils arrêteront pas de dépenser jusqu'à l'élection. Trudeau l'a dit hier. Hein, il a dit, je vais garder le programme là, d'aide au salaire puis au loyer des entreprises, là, puis je le maintiens au même niveau, parce qu'il était question à un moment donné de baisser ça un peu. Non, on va rester généreux jusqu'à la fin, Paul. Alors, moi, je pense qu'avec un budget très généreux et très coûteux, je veux dire, Trudeau pourrait aller chercher 2-3 points du côté des NPD, là, les gens qui ont le cœur à gauche, puis pour qui le déficit n'est pas important, puis qui veulent des dépenses sociales en masse, ça pourrait être assez pour se lancer, puis aller chercher peut-être la majorité. En tout cas, je vous le dis, surveillez ça. Pablo Rodriguez a déjà commencé à placer le message. La semaine passée, il a fait une sortie pour dénoncer l'obstructionnisme des conservateurs. Oui. Je te le dis, ils sont en train de construire le narratif.
Toi, tu trouves que ça sent les élections, là?
Moi, je te dis, avec ce que j'ai entendu hier de Trudeau qui dit on va être capable de livrer vaccins plus tôt, avec ce que j'observe au Parlement qui est dysfonctionnel, et avec les libéraux qui me parlent aussi et qui disent même tout haut, le Parlement est... bloqués par les conservateurs qui font de l'obstructionnisme. On n'est plus capable de faire avancer nos projets de loi. Moi, je trouve qu'ils sont en train de construire un narratif pour justifier d'aller en élection ce printemps.
Maintenant, Bombardier, gros test aujourd'hui.
Alors, ça s'appelle une journée des investisseurs, Paul. Éric Martel, le PDG d'Hydro-Québec, va s'adresser aux investisseurs plus tard aujourd'hui. Là, je ne sais pas s'il est sorti, là, mais il devait sortir autour de 7 heures le communiqué de Bombardier. Il dit essentiellement ceci. Puis je sais, Paul, qu'on est dans une chronique politique, mais Bombardier, c'est politique. C'est pas juste de l'argent, c'est pas juste de la bourse, là. Alors, Bombardier, dans son communiqué, là, qui est sorti ou qui va sortir, dit on va retourner à la profitabilité avec le Global 7500. On va faire de l'argent avec le service après-vente. Je te rappelle, il y a 4700 avions de Bombardier qui volent. C'est le plus gros fabricant d'avions d'affaires. C'est le fabricant d'avions d'affaires qui compte le plus d'appareils en service, près de 5 000. Fait que le service après-vente va être une grosse source de revenus, diront-ils. Mmh. Et troisièmement, il va annoncer comment il va s'y prendre pour rembourser la dette de 4,7 milliards de Bombardier. On verra, Paul, comment réagiront les marchés et tout ça si on n'est pas là-dedans. Mais je veux juste te dire, Bombardier a besoin de recommencer à se faire aimer. C'est ça le travail d'Éric Martel, c'est de ramener la compagnie en territoire de profitabilité et de faire la démonstration que Bombardier a encore un avenir. Parce que, Paul, le fédéral doit décider en fonction du budget qui s'en vient, le budget fédéral, comment ils vont aider le secteur aéronautique. Puis comme m'a dit un leader de l'industrie, il y a quelques jours de ça, il me dit « Je les aime pas, Bombardier, mais on en a besoin. » Parce que c'est encore la colonne vertébrale de l'industrie aérospatiale au Québec. Si Martel est capable de faire en sorte que Bombardier recommence à être aimé, ça va être plus facile pour les politiciens, éventuellement, d'aider Bombardier. Le problème actuellement, c'est quand t'aides Bombardier, tu te fais haïr par les électeurs, tellement les gens l'ont...
on l'a de travers.
Ben oui.
Puis Alain Bellemare, là, ça, on voit encore la face arrogante. Fait que c'est un peu difficile.
Il a fait beaucoup de mal à Bombardier, ouais. Bellemare. Je te le dis, là, il s'est... Il y en a qui me disent dans l'industrie, il s'est servi plutôt que de servir Bombardier. Et là, la job de Martel, c'est de montrer que lui, il est là. Oui, il est là pour lui, c'est sûr. Mais il est là pour l'entreprise, il est là pour les emplois, puis il est là pour l'avenir. On verra s'il sera capable de convaincre la population, Paul. La population, puis éventuellement, si la population est convaincue, peut-être qu'il y aura des ministres qui seront prêts à aller au battre pour Bombardier.
Merci, monsieur. 7h13.